Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial hors-série de Radio DevOps. On profite justement pour initier les hors-séries parce qu'on a eu la chance récemment avec Erwan et Damir de visiter un data center d'un hébergeur français. Cet hébergeur-là, c'est Scaleway, et justement on va en profiter pour vous présenter un peu Scaleway. Mais avant, on va quand même se présenter pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas. Erwan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Oui, donc Erwan, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille en tant que sysadmin et donc je suis la mouvance DevOps aussi.
Et Damien, du coup moi je suis, j'aime bien dire que je suis un réparateur de nuages, donc je travaille dans le cloud et sur l'approche DevOps et j'aide les clients à mettre en place tout ça et à travailler de manière plus agile et plus efficace.
Et moi c'est Christophe, je suis consultant indépendant au sein du collectif Lydra. Et on aide nos clients à déployer leurs applications web sans couper leurs services et on les accompagne à faire une transition DevOps. Et on est passionné par le cloud et les logiciels libres. Alors, on va discuter un petit peu de Scaleway et on va faire une rapide présentation de Scaleway. Et si suite à cette description, vous êtes intéressé pour essayer Scaleway, avec notre contact commercial, Lamia Zeraf, que je remercie, c'est grâce à elle qu'on a pu visiter le data center. Et grâce à elle, on peut vous proposer un coupon de 30€ pour essayer Scaleway. Donc si vous êtes curieux et si vous voulez essayer le cloud de Scaleway, c'est super simple. Vous prenez le premier lien en description, vous le suivez, vous enregistrez sur la page et puis vous allez recevoir un coupon de 30€ que vous pourrez utiliser pour essayer Scaleway. On est parti pour la description et la discussion. Donc Scaleway, c'est un fournisseur cloud principalement. C'est une filiale d'Iliad qui possède Free.
Ouais, Iliad Free Online.
Voilà, c'est ça. Peut-être qu'en fait, vous allez pouvoir venir à mon secours, les gars.
Alors oui, du coup, c'est vrai que vous connaissez sûrement plus du coup Free, qui est le fameux FAI qui a un peu cassé les codes et les prix surtout. Et du coup, qui est dans le groupe, le groupe Iliad, qui fait aussi du coup des infrastructures vraiment plus réseau et data center, qui était historiquement détenu par l'entité Online et qui s'est orienté, qui a fait un gros virage vers le cloud public il y a quelques années et qui est devenu Scaleway. Vous avez peut-être connu au niveau d'Online toutes les offres, si vous êtes un peu admin 6 ou autre chose qui est bien bricolé. Vous avez connu des fameuses Dedibox qui ont vraiment beaucoup fonctionné, qui étaient très populaires, notamment pour leur prix et leur qualité. Et du coup, aujourd'hui, ça devient Scaleway pour marquer le virage un peu sur le cloud public, en fait, et l'entrée sur le marché. Et petit à petit, toutes les marques passent du blason Online au blason Scaleway. Donc voilà, c'est un peu pour l'historique de la marque. Je ne sais pas si vous avez un truc un peu à ajouter là-dessus.
Non, tu as tout dit. Alors, on peut juste dire que c'est probablement le deuxième acteur français derrière OVH.
Oui, en effet, c'est l'un des rares gros hébergeurs qui fait du cloud public. Alors, au niveau des dates, on peut dire que Online existe depuis 99 en fait, et que en 2010, Online et Dedibox ont fusionné, et c'est à partir de 2018 qu'ils ont lancé la marque Scaleway pour justement proposer du cloud public et ils ont une croissance assez impressionnante puisque mon contact me disait que l'an dernier ils ont multiplié leur effectif par 2. Ils sont passés de 100 à peu près à 200 ou 300 personnes. Et en effet, toutes les marques maintenant vont s'appeler Scaleway quelque chose, Scaleway Dedibox, Scaleway Cloud, Scaleway Element, etc.
C'est le Scaleway Meta Universe.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Scaleway et surtout sur leur service? Bah, ils proposent soit de pouvoir héberger vos machines, vous les achetez, vous allez les installer dans leur data center, et eux, ils s'occupent de vous apporter les flux électriques et tout ce qui est réseau. Soit vous pouvez louer des machines dédiées chez Online, soit vous pouvez en effet passer sur le cloud public Scaleway et avoir des machines spécifiques, donc soit des VPS, soit des barres métal ou des serveurs ARM, puisqu'ils proposent des barres métal et des serveurs ARM à la demande. A priori, c'est les seuls en France à proposer ça, en tout cas à la facturation à la minute, si je me trompe pas, les gars.
Ça me paraît bon, il me semble pas qu'AWS et d'ARM en France, ou sinon c'est très très récent.
Ouais, pareil, je crois que ce sont les seuls.
Ils ont aussi une offre de stockage objet qui est entièrement compatible S3 et une offre qu'on retrouve qui est l'équivalent en fait de Glacier, qui est C14, qui a la particularité en fait d'être dans un bunker sécurisé en dessous de Paris. En fait, ils ont acheté un ancien bunker et l'ont reconditionné en data center. J'avoue que ce serait quand même pas mal de pouvoir le visiter, mais celui-là, il est à mon avis complètement inaccessible, puisque les données qui sont dedans sont vraiment hyper sécurisées, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont une tarification particulière justement sur C14, puisque contrairement à Glacier ou autre service de ce type, la tarification ne se fait pas à la donnée, enfin plutôt au transfert, mais au volume de données qui est stocké dessus. Est-ce que vous vous êtes justement intéressé sur le fait qu'ils étaient agréés hébergeurs de données de santé?
Bah, moi, ça me concerne pas directement par rapport à mon taf, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important d'avoir des acteurs français qui ont toutes ces certifications pour être des vraies alternatives aux gros providers essentiellement nord-américains.
Ouais, c'est vrai que bon, la certification de données de santé, même si elle me concerne, bah, elle concerne que dans des cas bien précis, c'est quand même une chose qui est agréable, que c'est aussi un gage de reconnaissance pour le fournisseur, de se dire bon, il a quand même assez qualitatif, il a quand même cette certif. Donc c'est toujours un plus, c'est toujours assez agréable, notamment bah, après, on sait tous que les certifs, ça aide notamment bah, quand on monte des dossiers auprès de Comex ou de choses comme ça, bah, ils sont toujours un peu contents et rassurés de voir ah bah ça a été accrédité par machin, ça a été agréé de données de santé. Ça a toujours un petit côté rassurant pour l'exécutif, les directions qui elles ont peut-être moins une vision directe. Donc je trouve que c'est de toute façon une bonne chose, on peut pas dire que c'est une mauvaise chose, hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Mais du coup, ouais, comme tu le disais, ce qui est bien, c'est qu'ils commencent à avoir, bah, ils sont assez récents, et ils commencent petit à petit à avoir ce que j'appellerais la line-up services minimum. C'est-à-dire, ils ont du VPS, ils ont du S3, de l'object storage. On appelle ça du S3 par abus de langage, mais ils ont de l'object storage. Ils vont avoir, ben, c'est en cours, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, du Kubernetes managé. Et du load balancer, du redoin, les éléments réseau nécessaires. Donc je pense qu'ils commencent vraiment à avoir, pour moi, le nombre d'éléments managés limite pour pouvoir faire venir dessus des vrais projets de manière efficace. Donc là, il va y avoir un virage qui va être assez intéressant, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Erwan, là-dessus.
Bah, c'est sûr que, effectivement, avec les différents services qui fournissent, ça commence à être hyper intéressant. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais essentiellement Scaleway dans un contexte de POC et de test au taf, puisqu'on est pas mal clients, mais sur leur partie non cloud. Par contre, je pense que pour être une vraie alternative, c'est bien d'avoir ces services, mais il faut l'intégration qui va avec. Et je sais qu'on en avait déjà parlé, mais le nerf de la guerre, ça va être l'API et l'intégration avec des outils type Terraform, quoi.
Ouais, c'est vrai que Terraform aujourd'hui, c'est un peu devenu un incontournable. Et si ta solution n'est pas compatible Terraform, bah, tu auras toujours plus de mal à décoller que si tu viens et tu dis bah, toutes mes API sont bien documentées, tout est compatible avec Terraform, j'ai un provider très propre qui fonctionne bien et qui est bien documenté. C'est sûr que c'est aujourd'hui, je pense que c'est un facteur qui est déterminant dans la réussite d'un cloud public, quoi.
Ouais, c'est ça. Et l'intégration avec Terraform, et on peut même aller avec des outils comme Ansible, bah, c'est, enfin, pour moi, le nerf de la guerre, il est autour de ça, quoi. Si tu peux avoir les meilleurs services que tu veux, si les gens sont obligés de passer soit par une interface ou soit par une API qui est hyper complexe à utiliser, bah, c'est sûr qu'ils le feront pas, quoi.
Ah oui, non, mais ça c'est clair. Moi je pense qu'aujourd'hui, bah, on en avait parlé dans l'émission bon, du coup précédente, et ça fait le lien. L'infra as code, c'est un peu devenu un incontournable. Et c'est difficile de travailler, on va dire, de manière efficace, avec les bonnes pratiques, etc., sans avoir ça aujourd'hui, quoi. C'est un outil qui est devenu un peu un des outils de base, j'ai envie de dire. Donc c'est sûr que. Après, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je pense que le plus intéressant, c'est d'aller voir du coup le podcast qu'on avait fait sur les outils d'infra as code. Mais c'est devenu vraiment une pierre angulaire du métier de DevOps aujourd'hui, quoi.
Alors, en effet, et moi je me rappelle, parce que du coup, que je peux dire, c'est que notre infrastructure, notre blog et le forum des compagnons du DevOps y sont hébergés sur DVM Scaleway. Et je m'étais posé la question justement, est-ce que Scaleway est compatible Terraform? Et à l'époque où je m'étais intéressé à Scaleway, oui, c'était compatible Terraform. Et j'étais d'ailleurs agréablement surpris de les voir avec un fournisseur officiel. Ils ont aussi un client, d'ailleurs, en ligne de commande qui est en open source. Donc, moi, je l'utilise pas, j'utilise que Terraform, mais ça peut être intéressant pour certains.
Je viens de regarder vite fait là les modules Terraform pour Scaleway. Et effectivement, il y en a plus que ce que j'avais à l'esprit. En revanche, il y en a quand même beaucoup qui sont en bêta. Donc après c'est toujours le curseur sur est-ce que pour ta prod t'as envie d'utiliser des trucs en bêta ou j'en sais rien.
Si j'avais envie de troll, je te dirais que beaucoup de gens n'ont pas été dérangés par le fait que beaucoup d'éléments de Kubernetes étaient tagués bêta pour le mettre en prod. Mais après, on pourrait m'accuser de troll là-dessus. Donc, vu que c'est un sujet sensible pour beaucoup, je vais m'abstenir d'aller plus loin.
Je vais peut-être donner mon avis parce que ça fait un long moment que j'utilise Terraform. Je rappelle quand même que Terraform n'est pas encore à sa version 1. Nous sommes dans une version 0.12. Donc, est-ce que Terraform lui-même n'est pas en bêta? C'est une question.
Ah, je sais pas s'il considère ça comme une bêta, excuse-moi. Pour moi, il considère ça comme une version normale, quoi. C'est juste que leur versionning, ils commencent à zéro, ils sont comme ça. Moi, c'est mon impression perso, hein, parce que le produit est quand même mature. Il n'y a aucun endroit où c'est vraiment tagué bêta. Il n'y a pas de gros changements non plus d'une version à l'autre en mode on va changer de langage, on va changer l'architecture ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est un produit qui est final. J'ai pas de mon... Il n'y a pas de mention de bêta. C'est juste que leur versionning est un peu étrange, peut-être là-dessus. Je suis d'accord.
Tout à fait. Alors bon, on pourrait parler de Terraform, mais c'est pas l'objet. Mais en effet, la version 12, la version 0.12, elle est bien prod ready et c'est ce qu'ils annoncent. Et ils ont d'ailleurs fait un changement sur le HashiCorp Language à ce moment-là. Et j'espère qu'ils vont pas en refaire parce que ça a eu pas mal de fort impact. Mais je crois qu'on a un peu fait le tour de ce que pouvait proposer Scaleway. On peut peut-être parler des manques qui vont a priori, d'après les informations qu'on a, être pallié rapidement. Il n'y a notamment pas de notion de IAM, donc de gestion des identités. C'est vraiment un gros manque. Et il n'y a pas non plus de gestion des réseaux. La seule gestion de réseau qui existe, c'est en effet load balancer et le security group. Mais sinon, il n'y a pas de réseau privé pour l'instant. On m'a dit que ça allait arriver, probablement cette année. Donc je croise les doigts parce que pour moi ce sont vraiment des gros manques et je sais que pour vous aussi.
Oui, clairement, le réseau, de toute façon, c'est j'ai cru voir sur leur site qu'il allait passer en bêta, du coup, qu'ils en parlaient déjà. Je ne sais plus, ou c'est peut-être. Non, ils n'en parlent pas encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Et comme tu dis, bah, l'IAM, aujourd'hui, bah, dès qu'on travaille à plus de 3 et qu'on doit un peu tracer ce qui est fait et tout, c'est un prérequis en fait.
Ouais, et puis aussi pour la gestion un peu plus fine des permissions, c'est vrai que c'est indispensable.
Oui, ça, et puis le fait de partager aussi son accès, parce que typiquement, nous, on a un accès pour deux, puisqu'on est deux chez l'Hydra, enfin trois. Et si on était plus, on partagerait le même accès, et surtout, on ne peut pas activer la double authentification, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, la gestion des identités, il faut vraiment qu'elle arrive très vite.
Ouais, c'est parce que là, du coup, tu partages un secret route auprès de tout le monde que tu es obligé de réinitialiser à chaque fois que quelqu'un part, ou je sais pas. Là.
Oui, exactement, oui. En tout cas, l'accès à la console, il est unique. On peut gérer des clés API par personne, mais l'accès à la console, lui, il est unique. Donc si on veut aller regarder des choses dans la console, on n'a pas le choix. Alors, on va peut-être parler de notre visite, puisqu'on a eu la chance de faire une visite. D'ailleurs, en tout cas, moi, je remercie personnellement Scalway pour cette visite et les personnes qui nous ont accueillis, parce qu'en plus, c'était un contexte un peu particulier, puisque c'était... là, on est le 19 mars, quand on est en train d'enregistrer ce podcast. Tout le monde sait qu'on est en confinement. Et on l'a visité la semaine dernière, vendredi matin.
Oui, vendredi.
Vendredi matin, on n'était pas encore en confinement, mais en tout cas, on sentait que il y avait beaucoup de choses qui allaient se passer, et les équipes de Scalway ont pris le temps de nous présenter leur data center. On a visité l'un des plus anciens et plus grands data centers, c'est celui qui héberge en fait les machines online et la colocation. Donc on n'a pas eu la chance de voir les machines qui gèrent le cloud public. Mais en tout cas, la plupart des data centers de chez Scalway, on nous a assuré qu'ils étaient gérés de la même manière. Damir, toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a le plus marqué dans cette visite ?
Alors, ouais, c'est vrai que moi, c'était ma deuxième visite de data center. J'avais visité un data center d'Equinix il y a quelques années maintenant. Ça commence à dater. Alors, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont surpris. Alors, je veux dire, moi, un data center, ça reste après toujours un peu les mêmes logiques derrière. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu du coup voir un peu tous les niveaux, et notamment la partie sécurité avec des badges biométriques. Donc ça, c'était une solution quand même assez avancée. J'ai même pu tester que effectivement, quand l'empreinte ne fonctionne pas, on est bien bloqué dans le SAS. Hein. Ça fonctionne. Je l'ai vérifié par moi-même. Donc non, c'était assez cool. Et en plus, la visite, on détaille un peu toutes les mesures à tous les niveaux, niveau électrique, niveau internet, pour permettre un fonctionnement efficace. Mais si, il y a peut-être un point qui m'a assez surpris, c'est au niveau du 24/7 par les équipes du NOC, ils ont l'air très efficaces pour une équipe qui a relativement réduite en nombre de personnes actives au même moment, je trouve. Donc c'était assez impressionnant, je trouve.
Ouais, en effet. Alors on peut peut-être préciser que, donc en effet, pour rentrer dans le data center, il faut avoir un badge biométrique. Donc, ils nous ont fait un badge biométrique visiteur au moment de l'arrivée. Ça veut dire qu'en gros, on donnait notre carte d'identité, ils nous fournissaient un badge, on devait enregistrer nos empreintes, deux empreintes, et l'empreinte est stockée sur le badge. Ce qui fait qu'en fait, sans ce badge et sans notre empreinte, on peut pas rentrer. Donc soit on a juste le badge et on peut pas rentrer, soit on a juste l'empreinte, non, en fait il faut les deux. Et ça c'est vraiment, c'est la première fois que je le vois, parce qu'en effet moi aussi j'avais visité un autre data center un peu plus petit, et il y avait pas de badge biométrique, il y avait juste le badge. Donc ça, je sais pas si c'est quelque chose que t'as vu toi, Erwan, dans d'autres data centers, ou est-ce que t'en as vu d'autres?
Ouais, au début de ma carrière, j'ai eu la chance de pas mal travailler en data center, puisque une partie de mon job était de m'occuper de l'infra qui était dans nos propres corridors, etc. Et du coup, on a géré des déménagements ou des choses comme ça, donc j'ai vraiment passé un peu de temps en data center. Et effectivement, si au début de mon expérience, il n'y avait pas de... c'était un peu à l'arrache, tu filais une pièce d'identité, quand tu l'avais pas, tu pouvais donner ta carte Navigo, et puis tu rentrais dans le data center. La dernière année où j'ai travaillé là-bas, en fait, ça y est, il y avait déjà tous les accès biométriques, il y en avait déjà d'ailleurs deux, un effectivement avec l'empreinte et une avec l'œil. Donc ça j'avais eu la chance de déjà voir tout ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement sur place ils sont jamais trop nombreux. Ça avait l'air d'être plutôt efficace. On a vu leur poste de monitoring, etc. Donc on voit qu'ils avaient l'œil un peu partout. Moi, le truc que je retiendrai, c'est quand il nous a fait visiter un des éléments de refroidissement et qu'ils avaient dû mettre, ils avaient dû s'adapter par rapport aux fortes chaleurs qu'il y a eu l'été avec un système d'arrosage qu'ils ont entre guillemets construit eux-mêmes à partir d'éléments que tu chopes à Leroy Merlin, quoi. pour arriver à tenir. Et en fait, ça prouve que non seulement c'est technique, mais qu'il faut être en plus assez débrouillard pour maintenir ce genre de plateforme à flot. Et c'est assez intéressant de voir que les mecs ils sont pros et que ça marche bien.
Ouais, alors ce qu'on peut dire, en effet, moi je l'ai noté, c'est qu'ils sont une dizaine en fait en permanence. Donc ils font les 3-8 et ils sont jamais plus qu'une dizaine. C'est plutôt en effet des techniciens réseau et machines qui sont là-bas. C'est pas les ops ou les devs puisque eux sont à Paris et à Lille. Mais en tout cas dans les data centers, c'est des personnes qui s'occupent de gérer les machines, mais au niveau hard et en effet de faire du bricolage. Moi, ce qui m'a le plus, et c'est à chaque fois, chaque fois que je visite un data center, c'est pareil, c'est la redondance électrique qui m'impressionne, puisqu'il y a toujours plusieurs arrivées électriques au cas où il y en a une qui se coupe, il y en a toujours une qui prend le relais. Là, en l'occurrence, il y en avait deux. Et même s'il y a des coupures électriques, il y a une procédure qui est quand même assez rodée, qui est d'abord, le data center est pas sur batterie pendant une quinzaine de minutes. Le temps qu'en fait les générateurs prennent le relais, donc des générateurs qui tournent au pétrole, oui c'est ça, au pétrole, ou à l'essence, je sais plus, et qui du coup se mettent à générer de l'électricité. Mais le temps que les générateurs se mettent en marche et commencent à générer de l'électricité, bah il y a un temps de latence et du coup c'est les batteries qui prennent le relais. Ce qui fait qu'ils nous assurent qu'en fait il n'y a pas de coupure électrique, du moins tant qu'ils ont du carburant.
Et après, même pour le carburant, dans tous les cas, ils sont ravitaillés régulièrement, vu que c'est un opérateur d'importance vitale, je crois que c'est ça le nom légal, qui fait qu'ils sont dans la liste des ravitaillements prioritaires en cas vraiment de pénurie ou autre, ou de catastrophe, même si bon, s'il y a vraiment une grosse catastrophe et qu'ils arrivent au bout de leur réserve, il y aura peut-être d'autres choses qui nous inquiéteront que le fonctionnement de nos serveurs, mais ça c'est encore une autre histoire.
Oui, ça dépendra de quel serveur en l'occurrence, mais en effet, il y a beaucoup de services dont on pourra se passer dans ces cas-là. En parlant de redondance, il y a aussi une redondance du coup de l'arrivée des flux Internet, puisqu'ils ont plusieurs FAI aussi. Enfin, moi, j'ai jamais vu un data center avec un seul FAI de toute façon. Je sais pas combien il y en a. Je me rappelle pas d'avoir noté le nombre.
Bah, il y a les principaux en tout cas, ne serait-ce que pour le peering en fait. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là où on pense pas, mais pour les interconnexions entre les opérateurs, vaut mieux avoir plusieurs opérateurs différents pour éviter les soucis de peering, donc des connexions entre divers opérateurs, divers réseaux et les rebonds. Donc c'est sûr que là-dessus, ça joue à ce niveau-là et au niveau effectivement de la disponibilité. Donc oui, il doit y avoir des liaisons free, moins oui, free, orange. Et ensuite, il y a peut-être SFR. Donc oui, voilà, SFR, Bouygues, il doit en avoir pas mal quand même.
Ouais, je pense que les quatre grands y sont. Après, je sais pas s'il y a des fibres optiques qui sont tirées vers d'autres data centers. Ce qu'on peut dire aussi sur l'électricité, c'est que lors de la visite, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont choisi une ville particulière où justement il n'y a pas les autres data centers de la région parisienne, puisque les data centers de la région parisienne sont tous pratiquement concentrés à un seul endroit. Et plutôt que de rajouter ce data center-là à cet endroit-là qui était déjà bien chargé en data center qui du coup pompe l'énergie de la ville, eh ben ils ont choisi une ville où il n'y avait personne. Ce qui fait qu'ils sont les seuls dans cette ville. Et la consommation électrique, il nous disait que ça représentait quand même 50% de la consommation annuelle des habitants. Alors je trouve ce chiffre assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou pas, mais en tout cas, moi je trouve ça impressionnant.
Bah, on sait que c'est un truc hyper énergivore, un data center. Hein. Donc, malheureusement, faut accepter que ce soit comme ça.
Parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas que des serveurs qui consomment l'électricité, il y a la clim, il y a tous les systèmes liés, il y a beaucoup de choses qui consomment là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, si je rebondis sur un dernier point sur la redondance électrique, et je trouve qu'il est très important, ce qu'on oublie de souligner, c'est que c'est testé régulièrement, c'est testé une fois par mois. Parce que c'est un peu comme l'histoire des sauvegardes, hein, vous savez, on le met en place, mais si on n'a jamais testé, au fond, ça n'a jamais marché. Donc c'est vrai que là c'est assez important je pense de bien tester tous les systèmes de redondance parce que si c'est des choses si on les teste pas on va jamais savoir qu'elles fonctionnent plus et le jour où on en aura besoin on va peut-être tomber de haut en fait donc c'est un point je pense qui est très très important.
En tout cas, moi, c'est le plus grand que je visitais, puisqu'il était assez impressionnant. Je sais plus combien il faisait de mètres carrés, mais c'était plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.
Ouais, c'était effectivement hyper grand, et puis on a été hyper bien reçus, les mecs étaient hyper cool et disponibles pour répondre aux questions.
C'est clair que vu le, comme, bah, comme Christophe l'a souligné au début, vu les conditions, ça commençait un peu à se ressentir que le virus, on va dire, était là. Moi, était là. Aller un peu changer les habitudes de vie. Ils ont quand même arrivé à prendre le temps, de nous faire une belle visite guidée avec, comme Erwan l'a souligné, toujours prendre le temps de répondre à nos questions, nos interrogations ou nos petites questions un peu de curiosité. Donc c'est vrai que c'est une chose qui est assez cool de leur part et je pense on les remercie tous pour ça.
Oui, justement, ça me fait penser que Scaleway, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus proches de leurs utilisateurs et de leur communauté que la plupart des autres hébergeurs, en tout cas français. J'ai pas cette proximité avec OVH que je retrouve avec Scaleway. Ça a été, enfin les personnes que j'ai eues étaient toutes très disponibles. J'ai eu beaucoup de coups de fil avec des architectes, avec des commerciaux, etc. Alors que je suis moi-même un tout petit consommateur. Et cette proximité-là, en tout cas, je l'ai pas avec OVH. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Bah c'est vrai que bon il y a peut-être le facteur taille qui joue aussi parce que OVH commence quand même à être une grosse entreprise maintenant, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que ils ont l'air plus proches que les autres opérateurs. En tout cas, ils ont l'air d'être plus à l'écoute de nos interrogations, nos choses-là, et de prendre peut-être plus le temps de nous répondre sans forcément faire une distinction de toi tu nous rapportes pas assez de CA, donc j'ai pas d'intérêt spécialement à prendre de temps pour toi, donc c'est vrai que c'est une chose qui est quand même une approche qui est assez agréable. Non, je sais pas, c'est quoi ton ressenti, toi, Erwan, par rapport à cette proximité?
Ouais, pas, enfin, j'ai pas spécialement d'avis. Effectivement, c'est sûr que ça paraît plus simple d'avoir un contact un peu plus direct, vu que la structure est plus petite. Mais après, moi, c'est pas un argument qui fait que, enfin, qui me touche spécialement.
Bah, je pense que moi c'est un argument qui me touche pas directement, mais indirectement je me dis qu'en étant proche comme ça, quand t'as très peu de services, ils vont peut-être savoir, et après c'est à voir s'il y a cette intelligence-là, plus utiliser réellement ces retours pour prioriser la backlog et sortir les bons produits au bon moment, bien écouter les feedbacks dessus pour les améliorer, faire quelque chose qui est ce que les gens demandent. Donc c'est, je pense, là qu'il va falloir un peu observer ce qui se passe, parce que écouter c'est très bien, après en arrivant à en déduire quelque chose et à l'utiliser pour améliorer son service, ça va être le deuxième, c'est transformer l'essai quoi. Donc ça, je suis assez curieux de voir comment ça va se traduire dans l'avenir.
Oui, alors c'est vrai qu'OVH ils ont un programme partenaire qu'on peut rejoindre et du coup je sais qu'il y a un club utilisateur, mais je pense qu'il c'est pas l'intégralité des utilisateurs. De toute façon ils en ont tellement que ils peuvent pas écouter tout le monde, c'est pas possible. On a encore peut-être un peu cette chance avec Scaleway qui est plus petit comme tu dis. Enfin plus petit entre guillemets, hein, ils sont quand même assez nombreux. Hein. On pourrait parler des cas d'usage qui nous feraient passer ou pas chez Scaleway. Bon, à titre personnel, j'en vois un, je pense que vous doutez duquel, c'est que Scaleway, c'est un des principaux hébergeurs français, donc ça nous laisse en fait le choix d'avoir un cloud public. On a finalement deux gros clouds publics localisés en France, donc on a le choix finalement de choisir soit OVH, soit Scaleway. Après, c'est vrai qu'il y a des plus petits data centers en France, mais il faut arriver à les trouver. Et il faut arriver à savoir qu'ils existent surtout.
C'est vrai que c'est un peu le souci, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de petits acteurs aussi, qu'on n'entend pas forcément trop parler, mais il y a de l'investissement derrière, c'est un peu dommage qu'on disperse énormément, je trouve, nos forces là-dessus, mais ça après c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un avantage d'avoir un bon cloud public français qui commence un peu je veux dire, à pousser, à émerger pour faire quelque chose de sympa. C'est vrai que c'est une bonne alternative, notamment pour toutes les problématiques de Cloud Act, etc. Et même avoir quelque chose de local, c'est toujours un peu plus sympa, quoi.
Ouais, pareil, pour moi c'est le point le plus intéressant chez Scaleway, c'est que ça c'est un acteur français qui du coup permet de contrebalancer l'autre gros acteur qui est OVH, et donc du coup ça veut dire plus de solutions face aux acteurs américains.
Oui, parce que du coup, il va y avoir de l'innovation. Si OVH était tout seul, je pense que il y aurait peut-être moins d'innovation, mais là, du coup, comme il y a deux grands en France, je pense que ça va émuler l'innovation. D'ailleurs, on le voit, hein, puisque OVH a sorti un Kubernetes Manager, Scaleway est sur le point de peut-être sortir son Kubernetes Manager de sa version bêta. Bip, bip, bip. Je suis en train de monter le podcast, et en fait, depuis qu'on a enregistré, Scaleway a sorti son Kubernetes Manager de bêta, et bah maintenant, il est apte à être utilisé en production. Donc, c'est la petite correction et le petit add-on que je voulais faire par rapport à l'enregistrement. On retourne sur notre podcast. C'est parti. Ils proposent tous les deux des objets storage qui sont compatibles S3. Ils ont tous les deux des solutions de stockage plutôt froid. Je sais plus comment ça s'appelle chez OVH et chez Scaleway, c'est C14 comme on en avait parlé. Et Scaleway vient de sortir récemment, et je crois que c'est les seuls en France à faire ça, le load balancer multi-cloud. J'avais déjà vu un service américain qui faisait ça, mais en tout cas un load balancer français qui pouvait justement load balancer sur plusieurs clouds, c'est quelque chose que j'avais pas vu en France.
Ouais, c'est vrai que ça me doit, à part chez Scaleway, j'ai pas connaissance. Après, il y a tellement d'offres, il y en a sûrement d'autres qui le font, hein, mais j'ai pas de connaissance d'autres qui le font. Et je pense que c'est une offre qui est intéressante, vu qu'on a un peu cette mode qui émerge du multi-cloud pour être le moins dépendant possible d'un seul acteur. Donc c'est un produit qui peut vraiment être différenciant là-dessus aussi. C'est vrai que c'est intéressant. Faudrait tester. Si l'un de vous est chaud pour tester, nous faire un retour, je suis preneur.
Alors, je ferai peut-être un test un jour, mais c'est pas encore prévu. Les autres cas d'usage, bah, c'est si vous faites de l'infra, enfin, si vous contentez des briques d'infrastructure de base qui sont serveur, disque, réseau, load balancer, ils ont même des bases de données aussi managées. Et bah, vous pourrez tout avoir chez Scaleway comme chez OVH. Donc, a priori, il n'y aura pas de soucis. Ils ont même, je vois, un registre de conteneurs à disposition qui n'est pas en bêta, qui est en version prod ready. Donc, il y a quand même déjà pas mal de services. Et je crois qu'ils sont moins chers qu'OVH sur justement le cloud public. Je ne sais pas si vous avez regardé les tarifs. Moi, à chaque fois que je regarde, je les trouve légèrement moins chers.
Bah, moi, je sais que clairement, ça a été un des arguments de pourquoi passer sur Scaleway pour tous nos POC, etc. C'est que c'était le moins cher. En tout cas, pour ce qu'on fait.
C'est vrai que j'ai pas trop comparé les prix, moi, donc je peux pas trop dire là-dessus, malheureusement.
Moi, je pense à un autre cas d'usage aussi, justement, comme leurs machines virtuelles sont vraiment pas chères. Ça pourrait être de lancer des tests de charge, en fait, directement chez eux, c'est-à-dire on crée plein de VM à la volée, on balance nos outils de charge sur notre infrastructure qui serait ou pas chez Scaleway, hein, mais chez d'autres personnes. Mais en tout cas, le fait que ce soit pas cher chez eux, on pourrait justement avoir plein de machines comme ça pour charger notre infrastructure et la stresser. C'est un truc, en tout cas, moi j'aimerais bien faire un jour. Bon, ben, dans ce cas-là, on va clôturer. En tout cas, si un autre data center veut nous inviter pour qu'on visite leur data center, pour qu'on puisse voir, explorer ou discuter même avec vous, parce que justement, si on connaît pas les petits, peut-être que eux nous connaissent. Alors dans ce cas-là, ça pourra nous permettre de faire parler d'eux. C'est une bonne chose en tout cas. Donc si vous êtes un petit acteur et que vous avez un data center qui fait du cloud public, hein, pas juste des machines virtuelles, mais un cloud public avec des réseaux, des disques, etc. Eh ben, contactez-nous pour qu'on puisse parler de vous, parce qu'en tout cas, je sais que ça intéressera forcément la communauté d'avoir une liste des fournisseurs cloud français. Et messieurs, ben, je vous remercie en tout cas, et puis je vous remercie de la visite, parce que c'était sympathique de vous rencontrer. Et je vous dis à très bientôt dans un numéro qui ne sera pas hors série cette fois.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.